Philippiens chapitre 12, versets 12 à 30. Verset 12, il est dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car elle désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc renvoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. On a commencé il y a déjà quelques semaines à un peu étudier cet épître aux Philippiens et on se souvient que Paul est en prison. Et malgré qu'il soit en prison, il démontre de l'amour, il démontre un témoignage, il démontre un combat, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Et quelque part, c'est une leçon pour nous. Et là, c'est la dernière fois, nous avons étudié le modèle par excellence qui est Jésus-Christ. Hein, un magnifique passage dans Éphésiens qui parle de ce grand Dieu qui a accepté de descendre sur la terre et de devenir un serviteur. Celui qui était servi a accepté de nous servir. Et si lui était un modèle, évidemment, maintenant Paul continue à, ben justement, à dire qu'à nous de devenir des modèles. Est-ce qu'il y a des modèles ici? Qui est un modèle de chrétien là? Oh, on est humble, hein. Hein, qu'est-ce qu'on est humble. Mais des fois, peut-être dans notre cœur, on se dit, moi, je suis quand même pas mal comme chrétien, hein, quand je me compare par rapport à d'autres. Et croyez-moi, on le fait. Hein. Est-ce qu'on est vraiment un modèle? Est-ce qu'on est ces ouvriers qui mettent en marche, justement, notre salut? Et c'est ce que nous invite à faire aujourd'hui Paul, au travers de ce passage. Mettre notre salut en marche, ça pourrait poser beaucoup de questions par rapport à la perte du salut, mais ce n'est pas l'idée. Paul veut qu'on commence à vivre, tout simplement, une fois que l'on est sauvé. Beaucoup se disent, je suis sauvé, c'est réglé, je n'irai pas en enfer, et maintenant je m'arrête là. Mais non, c'est juste le début, en fait, de la vie, et surtout ce que Paul nous dit là, il dit, travaillez ou œuvrez à votre salut. Hein, ça veut dire accomplir, ça veut dire achever. Ce n'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui bouge, et qui va aller vers le meilleur. C'est mettre en œuvre ce salut, c'est mettre en œuvre notre vie chrétienne. Je suis sauvé, maintenant il y a toute une vie qui m'attend avec le Seigneur. Ce n'est pas un salut par les œuvres, parce que Paul lui-même dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais par la grâce. Ce n'est pas ce que je fais qui me sauve, c'est le cadeau que j'ai accepté de Jésus-Christ qui me sauve. Ce n'est pas la même chose. Alors maintenant que je suis sauvé, il faut que je me mette à vivre pour Dieu. Et pas simplement rester sur cela. Calvin disait, celui qui méprise Dieu après l'avoir connu est donc pire que le diable. Bon, il exagère peut-être, mais quelque part. Vraiment, voilà un grand cas dont on doit se vanter, c'est d'être au-dessus des diables. C'est-à-dire de ne pas faire comme le diable qui croit en Dieu, parce qu'il l'a vu, c'était un ange avant, mais qui a chuté, et qui n'a pas décidé de suivre Dieu. Si moi je suis sauvé aujourd'hui, j'ai cru en Dieu, je sais qui il est, et je veux me mettre au travail pour lui. Et Paul dit de travailler avec crainte et tremblement. Mon crainte en grec, c'est phobos, phobie, hein, pour le français. Là, c'est pas la peur de Dieu, dans le sens où ah, Dieu est grand et j'ai peur de lui. Mais c'est plutôt l'aspect respect que l'on peut avoir de Dieu. Comme on vient de le voir, Jésus est mort sur une croix. Comment on ne peut pas respecter ce sacrifice? Comment on pourrait vivre, on va dire, sans penser à Dieu le reste de ma vie chrétienne, en oubliant ça, en oubliant la croix? Je dois vivre avec respect, je dois marcher avec respect devant Dieu parce qu'il mérite absolument ce respect. Et puis avec tremblement, alors le mot grec a une petite connotation, trouver une définition qui dit « avec crainte et tremblement » utilisé pour décrire l'anxiété de quelqu'un qui se méfie de son aptitude à remplir toutes les exigences, mais fait religieusement tout son possible pour accomplir son devoir. On ne sera jamais au top dans la vie chrétienne. Enfin, moi, je ne serai jamais certainement. Mais je peux tout faire pour aller de l'avant, avec tremblement, c'est-à-dire sans prétention. Hein, parce que franchement, qui pourrait être prétentieux de dire « il est au top dans sa vie chrétienne, là ?» Personne. Mais j'essaie de faire le mieux possible pour essayer de plaire à Dieu. Et c'est ça que Dieu cherche. Ce n'est pas des super chrétiens, parce qu'il n'y en aura jamais des super chrétiens, mais des gens qui cherchent tout simplement à faire leur possible pour plaire à Dieu. Et ce n'est pas toujours simple de plaire à Dieu. Il dit travailler honnêtement, il faut grandir pour soi et non pas à cause des autres. Même si l'un et les autres peuvent m'aider à grandir, mais c'est grandir dans le sens où je ne suis pas là le dimanche en disant « Regardez comme je suis un chrétien qui avance, regardez-moi, hein, je suis un grand chrétien. » Souvent un peu pour notre petite gloriole. Mais pour moi, je crois que le chrétien qui grandit réellement, c'est celui qui est dans sa chambre, qui est dans l'intimité de Christ et qui travaille avec Christ dans cette relation authentique qu'il a. Hein, on dit souvent qu'on voit qui on est réellement devant Dieu quand on est seul dans une chambre. C'est là où on est vraiment authentique devant Dieu. Mais l'idée, c'est de grandir d'abord avec Christ, moi et Christ. C'est bien de venir à l'église, je ne vais pas vous dire de ne pas venir, forcément, parce qu'on a besoin de cette communion fraternelle. Mais ce n'est pas ici que vous allez grandir. Enfin, vous recevrez peut-être des aides, mais c'est au quotidien, dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, moi-même avec Christ. C'est ça que Paul désire que l'on fasse, pour grandir. Et ensuite, il parle de cette dimension collective, parce que si moi je grandis, forcément, moi, ça fait l'église. Enfin, un grand moi, on pourrait dire. Il y a une dimension collective, parce que l'apôtre Paul voudrait évidemment que toute l'église mûrisse. Et ça devrait être quelque chose, en fait, de naturel. Pourquoi, des fois, il faut toujours aller pousser les gens, hein? Ça devrait être naturel de grandir. Mais est-ce qu'on pousse naturellement, une fois qu'on est sauvé? On n'a pas besoin, des fois, des petits... Hein, que Dieu nous secoue un petit peu dans notre vie pour qu'on aille en avant, parce que je crois que, techniquement, on restera toujours statique dans notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que grandir, ben, c'est pas toujours évident. On est tous passés par notre croissance en train de bébé, on pleure au début, il y a les dents, ça fait mal, puis on grandit, on dit ado, c'est pénible, etc. La croissance, c'est exactement la même chose pour un chrétien, c'est des fois difficile. Et Dieu nous permet des situations difficiles pour qu'enfin on ait réellement la foi. On dit souvent avoir la foi, mais il faut qu'on se trouve dans des situations vraiment difficiles pour comprendre ce qu'est réellement la foi. Et Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir, nous dit le verset 13. Dieu produit en vous, le terme grec veut dire Dieu donne l'énergie pour pouvoir lui obéir. On pourrait se dire, oh, il faut que je me mette à travailler pour le Seigneur, que je vais essayer de prendre toutes mes forces en moi pour essayer d'avancer. Essayer, ça ne marchera jamais. Enfin, on arrivera à avancer un petit peu, mais pas beaucoup. Dieu met en moi ou produit cette énergie en moi pour pouvoir obéir. Merci Seigneur, hein, quelque part en fait. Alors, évidemment, il faut que je sois d'accord qu'il mette en œuvre ce salut en moi, que j'accepte cette énergie. Mais c'est lui qui fait tout. C'est lui qui m'aide. Hein, donc, il n'y a pas de gloriole à se dire, je suis un vieux chrétien, un vieux briscard, là, hein, et je peux m'en vanter. C'est parce que Dieu a fait ces choses en moi, tout simplement. Dans d'autres passages, il est dit, Dieu veut notre sanctification. Alors, des fois, Dieu veut quelque chose, mais ce qui est formidable, c'est qu'il va nous donner tous les moyens pour y arriver. Ça soulage, non?
Oui.
Bon, bah, c'est quand même formidable. Hein, Dieu nous donne tous les moyens pour arriver là où il nous veut. Alors si on n'est pas là où il veut, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de moi. C'est parce que je refuse tout simplement d'avancer. Et dit Dieu produit en vous, et il y a un aspect là aussi collectif du travail que Dieu veut faire dans tous les chrétiens. Dieu veut travailler dans le pasteur, ça il le fait, ne vous inquiétez pas, mais il veut faire en chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être pasteur pour se laisser transformer par Dieu, pour grandir et devenir mature spirituellement. Il produit le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est un choix réfléchi et résolu de faire ce que Dieu demande. Il ne s'agit pas d'être un chrétien qui, oui, qui gobe et qui va faire juste pour faire. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut des convictions. Il veut des chrétiens avec des convictions. Et pour avoir une conviction, il faut s'arrêter de temps en temps, réfléchir, intelligemment, avoir une résolution et ensuite chercher à voir ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Le vouloir et puis le faire, c'est le même mot que produit, hein, ce que Dieu produit. Dieu nous aide tout simplement à agir. Mais il faut s'arrêter et réfléchir à ce que Dieu veut. Et pour réfléchir à ce que Dieu veut, ben, prenez le temps de lire toute la Bible et vous aurez toute la volonté de Dieu. On connaît la volonté de Dieu des fois de 20%, 10%. Si je reste dans les psaumes, c'est 5% seulement. Si je ne lis pas toute la Bible, si je ne vais pas dans Malachie, si je ne vais pas dans Agé, si je ne vais pas dans ces livres qui nous énervent, Lévitique, qui n'aime pas lire Lévitique, mais je ne connaîtrai pas la volonté de Dieu entièrement. Dieu veut qu'on connaisse toute sa volonté parce que sans tout connaître, je vais marcher un peu à droite, un peu à gauche. Et des fois, je vais croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui me demande ça, tout simplement. Il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu veut des croyants qui fassent ce qui lui plaît, parce que la volonté de Dieu est absolument parfaite. On essaie d'agir par nous-mêmes, avec notre volonté, mais celui qui connaît la volonté de Dieu, surtout à la croisée des chemins, on pourrait dire, ben à ce moment-là, il sait qu'il va s'engager dans quelque chose de parfait, puisque Dieu lui-même est parfait. Les chrétiens doivent chercher la volonté de Dieu avant de se mettre à agir. Alors, il ne s'agit pas de se dire quelle couleur de chaussettes je vais mettre ce matin, on est bien d'accord, vous faites ce que vous voulez. Dieu nous laisse une liberté, heureusement. Enfin, mettez pas les rouges, hein, c'est pas... Bon, enfin, bref. Mais on a une liberté, mais il y a aussi, on va dire, un cadre dans lequel Dieu nous appelle à chercher ce qu'il désire pour notre vie. Est-ce que quand je suis jeune, je demande à Dieu ce qu'il veut que je fasse en tant que travail ? L'époux, l'épouse que je dois chercher, etc., etc. Après, quand on est plus âgé, qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Hein ? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour moi ? Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir ? Paul nous dit que Jésus nous demande de mettre en marche notre salut, hein, se mettre au travail maintenant pour lui. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous demande de se mettre en marche, mais il va aussi nous accompagner et il va nous aider. Donc en fait, il n'y a pas d'excuse pour celui qui stagne, parce que Dieu va l'aider. Et qui est Dieu ? Un grand Dieu qui peut m'aider ? Donc forcément, je vais pouvoir avancer. Puis dans un deuxième temps, Paul dit « devenir un ouvrier modèle ». Ça, c'est déjà un peu moins drôle. Je veux bien être un ouvrier, on va dire, qui travaille un petit peu. Mais modèle, c'est le pasteur, ça. C'est les responsables qui doivent être des modèles, non ? Tout le monde, hein ? Oui, oui. Là où on en est. Mais on est tous appelés à être des modèles. Et il dit, et c'est marrant qu'il dise ça, « sans murmure ni hésitation ». Personne murmure. Qui murmure ici ? Pour reprendre un peu ce que disait tout à l'heure notre frère, je suis parti à l'Institut biblique en murmurant. Parce qu'on a une grosse panne de voiture et des frais, et je n'avais pas les moyens. Et passer une semaine à renseigner les jeunes, c'est bien, mais j'aurais voulu avoir des clients plutôt. Et en revenant jeudi, j'avais une boîte de chocolat qu'on m'a offert comme ça. Je l'ai posée, et puis il y avait une enveloppe qui couvre tous les frais, voire plus que la panne. J'étais parti en murmurant, désolé Seigneur, hein, mais je suis un être humain comme tout le monde. Et finalement, Dieu a payé, on pourrait dire, la panne et bien plus. Vous voyez ce que Dieu peut faire ? Bon, je ne suis pas parti vraiment en murmurant, c'était un petit peu avant. Mais après, j'ai dit, Seigneur, voilà, tu fais ce que tu veux, hein, tu sais, voilà, je ne peux rien faire. Mais on murmure. Hein. Murmurer en grec, c'est marmonner secrètement. Voilà, pourquoi moi, hein, quand je vois les autres chrétiens, tout va bien, ils ont du travail, et moi, là, pourquoi moi ? C'est aussi avoir des mauvais sentiments. Et des fois, quand on murmure, je ne le dis pas parce que je suis comme vous, des fois, on a des mauvais sentiments vis-à-vis de Dieu. Et on se dit qu'il est injuste, il ne comprend rien à notre vie. Et c'est complètement faux. Comprenant que Christ est mort pour notre salut, et il nous demande de croître, mais moi, je crois que la croissance vient de la reconnaissance. Si je suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi, alors je vais grandir. Et c'est comme ça que je vais mesurer aussi où j'en suis avec le Seigneur. Il dit sans murmure, sans hésitation, le mot veut dire sans opinion, sans mauvaise pensée. Ça serait plutôt l'aspect intellectuel de notre être, dans le sens où des fois on remet en cause la parole. Je dis souvent à Dieu, hein, il dit que tu ouvriras les écluses des cieux quand on est dans la difficulté ou quand on offre notre offrande. Hein. Et des fois on ne voit rien. J'avais un prof à l'Institut qui disait, de temps en temps, il faut rappeler à Dieu ses promesses. Non pas qu'on va avoir du manque de respect vis-à-vis de Dieu, mais quand vous rappelez les promesses à Dieu, vous lui faites plaisir, parce que vous lui dites, tu vas faire. Et ça, c'est la plus grande confiance qu'on peut avoir en Dieu, de lui rappeler justement ses promesses. Ce n'est pas parce qu'on lui rappelle qu'il va faire comme vous voulez, hein. On est bien d'accord. Mais ne pas douter justement de ce Dieu et rester confiant en Dieu. Ce ne sera jamais parfait, ça je le sais. On peut essayer d'aller au maximum, mais Dieu, au fur et à mesure dans notre vie, nous met des épreuves, des difficultés pour nous montrer qu'il est effectivement là et qu'il connaît tous les besoins. Quand même formidable d'avoir un père comme ça, hein. Même si des fois on murmure, même si on râle des fois, parce qu'on est des hommes. De toute façon, hein, quand on était gosses, on râlait aussi après nos parents. Hein. On continue tout simplement dans un autre domaine, on va dire. Et Paul dit ne pas murmurer, ne pas hésiter, ne pas avoir des hésitations, mais avoir des objectifs. Verset 15, avoir de bonnes attitudes. Il dit de devenir irréprochable. Ça vous parle ? Devenir irréprochable. Ne méritant pas de censure dans le grec, être à l'abri du blâme. Donc, il ne s'agit pas de la perfection, on est bien d'accord là, mais plutôt de... Voilà, on connaît ce que c'est la censure. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment me faire des reproches dans ma façon de vivre ma vie chrétienne ? Ou est-ce que Jésus peut me faire des reproches ? Irréprochable, pur, c'est-à-dire non mélangé, comme par exemple le vin ou les métaux, si on mélangeait les deux, ce n'est pas quelque chose de terrible. Hein. Et être des enfants irrépréhensibles, innocents, sans reproche. Dieu ne nous demande pas la perfection, parce qu'il sait très bien qu'on ne l'atteint pas, et on ne pourra jamais l'atteindre, mais être sans reproche, ça c'est possible, effectivement. Hein. Si j'arrête de murmurer... Vous savez, les murmures, on a vu ça dans le désert. Hein. Le peuple a murmuré après Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a tourné 40 ans, il n'est jamais rentré dans la terre promise. Si on continue à murmurer après Dieu, même si ça peut nous arriver, on s'entend. C'est-à-dire, c'est rester tout le temps dans le murmure, eh ben vous allez tourner en rond, hein. Ça ne sert à rien. Ouvrez votre cœur et demandez la foi nécessaire, mais le Seigneur ne veut pas qu'on murmure. Puis il demande aussi d'avoir un bon témoignage, et il dit ça dans une génération perverse. Alors, vous savez, on pleure parce qu'il faut témoigner dans notre petite génération perverse, mais essayez de vous placer à Rome à l'époque. C'était des barbares. Hein. C'était, quand vous marchiez dans la rue, il fallait que vous vous agenouilliez devant l'empereur. Si vous ne le faisiez pas, vous étiez zigouillé, etc., etc. Il dit ça à ce moment-là. Hein. Soyez un bon témoignage dans cette génération perverse. On n'a pas de quoi râler ou de dire quand même, vous risquez pas de mourir en sortant tout à l'heure. Pas encore, en tout cas. Mais cette génération s'est détournée de Dieu et la refuse, et à nous d'être justement un bon témoignage, comme des flambeaux. Pas les flambeaux de l'Église, on s'entend, même si c'est ça l'idée quelque part, mais ces ambassadeurs qui offrent la lumière de la bonne nouvelle. Si quelqu'un vous pose une question sur votre vie chrétienne, si quelqu'un peut-être parle de religion, ben saisissez la perche si c'est possible, et parlez-leur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Portant la parole de vie, la parole de vie, hein. Il n'y a pas que le mot parole, mais la vie, parce que cette parole peut donner la vie éternelle. Seriez content que vos voisins, votre famille, vos collègues de travail soient sauvés. Imaginez si vous pouviez partir au travail le lundi matin et il n'y a que des chrétiens au travail. Ça ne va pas être aussi simple que vous croyez. Hein. Il y a déjà des tests qui ont été faits où on a fait une entreprise qu'avec des chrétiens, ça a échoué. On est des êtres humains. On reste des êtres humains. Mais c'est quand même plus agréable de pouvoir partager avec ses collègues notre vie chrétienne, évidemment. Mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Et c'est à moi, évidemment, de leur apporter cette lumière. Et au verset 16 et 17, il dit « Devenir une fierté pour vos conducteurs ». C'est ça, être un modèle. Que les conducteurs puissent être heureux. Là, en l'occurrence, on parle de Paul. Hein. Il dit « Paul pourra se glorifier devant Jésus-Christ de ne pas avoir travaillé en vain ». C'est une reconnaissance pour lui, quelque part, de voir les chrétiens grandir et devenir des modèles. C'est un salaire, on pourrait presque dire, de tout le travail qu'il a fait pour chacun d'entre eux. Vous savez, Paul est en prison, souffre énormément, mais il a fait pour ses Philippiens, il a fait pour les chrétiens, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et de temps en temps, il aimerait un petit retour aussi. Un peu de reconnaissance, tout simplement. Paul a sacrifié sa vie pour la bonne nouvelle et voir les chrétiens progresser, pour lui, c'est sa joie. Il ne cherche pas de l'argent, il veut simplement voir les chrétiens progresser. Et ça, c'est la joie des conducteurs. Quand on voit quelqu'un qui passe de là à là avec le Seigneur, croyez-moi, ça fait beaucoup de joie et de plaisir. À l'époque, quand j'étais dans une autre église, il y avait un homme que j'avais rencontré, il voulait parler de l'évangile, mais quand je l'ai vu, j'ai dit « jamais de la vie, ce gars, il se convertira jamais ». Il était dans une situation terrible. Et aujourd'hui, il me téléphone de temps en temps, il est dans une église, il est engagé à fond. Et ça, ça me fait plaisir à moi. Beaucoup plaisir. Donc si vous voulez faire plaisir à vos conducteurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pas au sourire, hein, ça ne marche pas. Hein. Grandir, tout simplement. Aller de l'avant, alors chacun son rythme, chacun hein, son... Mais le fait de grandir, de vouloir connaître mieux le Seigneur, d'avancer avec lui, ça fait plaisir, et pas qu'à moi, à Dieu évidemment aussi. Hein. Paul s'est sacrifié bien souvent, hein, et il dit qu'il va peut-être servir de libation, c'est-à-dire il va être versé comme une boisson d'offrande. Pour lui, dans sa tête, il était prêt au martyr. Cette fois, il n'ira pas jusqu'au martyr, mais la deuxième fois qu'il sera emprisonné, cette fois, il mourra. Mais il est prêt à se sacrifier pour le service de leur foi, pour les voir progresser, grandir. Et parfois, on parle des cicatrices du sacrifice, et quelqu'un écrivait « Les cicatrices sont les marques authentiques d'un fidèle discipulat. Rien n'émeut davantage les gens que l'empreinte des clous et la marque de coups de l'épée, par de Christ. Ce sont des tests de sincérité que personne ne peut contester, comme Paul le savait bien. Du reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. » Paul a été lapidé, a été en prison, a souffert énormément. Et il peut dire, voilà, regardez tout ce que j'ai souffert pour vous, les chrétiens. Et de temps en temps, faites-moi plaisir en grandissant, en faisant que votre foi progresse. Il y a beaucoup de chrétiens qui lui faisaient de la peine aussi, hein, hélas. Mais ça, ça réjouit Paul, comme il dit. Et ça doit aussi réjouir les Philippiens, parce qu'il y a un même but, il y a un même sentiment. Si le conducteur veut qu'on avance, et si l'Église avance aussi, alors tout le monde est tout simplement dans la joie. Et je préfère la joie que la tristesse. Enfin, moi en tout cas. Vous aussi, j'espère. Ouais. Ça donne envie de grandir, hein. Dans la joie. Être transformé dans la joie. Changer mes habitudes que j'aime tellement dans la joie. C'est pas évident. Œuvrons au salut pour devenir des modèles qui font plaisir au conducteur et surtout, peut-être pas à lui qu'il faut voir en premier, mais surtout à Dieu. Parce que c'est là qu'on fait aussi plaisir à Dieu. Et puis il va nous laisser deux modèles, Timothée et Epaphrodite, hein, deux modèles qu'il est en train de décrire tout simplement là-dedans pour appuyer un peu son argumentation. Timothée, c'est celui qui encourage. Hein. Il dit qu'il est une aide compatissante pour Paul. C'est un fils spirituel puisque c'est au travers du ministère de Paul que Timothée, d'abord ses parents, enfin sa mère et sa grand-mère se sont convertis, puis lui. Mais il est là maintenant à son tour pour soutenir son père spirituel, on pourrait dire, dans la difficulté et en prison. Il prend du temps, justement, pour Paul. Il partage aussi les sentiments de Paul dans le souci qu'il se faisait pour les Philippiens. Il est vraiment en communion, tout simplement, avec l'apôtre Paul. Et il dit que c'est un serviteur intègre. Il ne cherche pas les intérêts comme les chrétiens, certainement, de Rome à ce moment-là, puisque dans le contexte, on est à Rome. Mais lui, il veut ce que Dieu veut, simplement. Alors, beaucoup travaillent pour eux-mêmes dans l'Église, hélas, peut-être pour leur orgueil, certains pour l'argent même, hélas, pas forcément pour l'Évangile, mais Paul dit que Timothée travaille pour Dieu à ce moment-là. Il dit que c'est un homme consacré au service de l'Évangile, puisqu'il a été mis à l'épreuve. C'est pas le petit chrétien de base, hein, c'est quand même quelqu'un qui a déjà souffert avec Paul au travers de ses voyages, etc. Et il en a bavé plus d'une fois pour la bonne nouvelle. Hein. Et c'est consacré au service, comme il dit. C'est le mot, c'est en fait se consacrer au service, c'est être esclave tout simplement de Christ. C'est servir Christ comme un esclave. Souvent on dit je veux servir Dieu, mais je vais aller à mon rythme, je vais aller là où je veux. Mais vraiment servir Christ, c'est devenir l'esclave de Dieu. Je ne sais pas si on a vraiment cogité ça dans notre tête. Un esclave, ça fait ce que Dieu demande tout simplement. Alors il sait qu'on doit travailler, il sait qu'on doit faire un tas de choses. Mais est-ce que je suis vraiment lié de cette manière-là à Dieu ? Et puis, Timothée va servir de lien, de messager entre Paul et les Philippiens. Il va l'envoyer plus tard hein, aux Philippiens quand lui sera délivré aussi. Ça démontre un peu que Paul avait l'espoir aussi de sortir de prison assez rapidement. Mais voilà, il cite là Timothée, non pas comme la perfection, mais comme un modèle, comme quelqu'un qui est prêt à encourager ceux qui sont dans la difficulté. Est-ce que moi, je suis un modèle comme cela ? Est-ce que je suis prêt à encourager celui qui est dans la difficulté ? On n'est peut-être pas tous appelés à faire la même chose, forcément. Mais quand même, si je vois mon frère, ma sœur dans la difficulté, « Ouais, je vais prier pour toi. » Il aurait pu dire « Je vais prier pour toi, Paul, quand tu es en prison. » Mais c'est déplacé. Il a pris du temps pour lui. Et c'est ça, aimer vraiment et encourager. Puis nous avons Epaphrodite, hein, une bonne idée pour un bébé, un nom de bébé, là, Epaphrodite. Ce serait joli, ça. Hein. Celui qui prend des risques. Hein, c'est celui qui prend des risques. Et c'est une personne qui est appréciée énormément de Paul parce qu'il dit trois fois « Mon frère, mon compagnon ». Mon compagnon de combat. Il y a une intimité aussi là entre Paul et Epaphrodite. Il dit c'est mon frère et ça démontre toute l'affection qu'il avait en fait pour Epaphrodite et le lien aussi qui les unissait en Jésus-Christ. Hein? On n'est pas frère simplement pour être frère, on est frère parce qu'on croit la même chose, parce qu'on va dans la même direction. Hein? C'est ça être frère en Christ. Il est mon compagnon d'œuvre, c'est-à-dire un collaborateur d'un partenariat affectueux. C'est ça que le mot dit. Hein, il ne travaille pas pour travailler, mais il y a vraiment de l'affection, en fait, pour Épaphrodite à ce moment-là. Et c'est chouette de travailler de cette manière-là. Et puis, mon compagnon aussi de combat, le mot parle plutôt d'un vrai soldat. Alors, pour ceux qui ont fait le service militaire, je sais pas, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, hein, mais on se souvient ce que être un soldat obéit à son capitaine ou à son commandant. Parce que nous, en tant que soldats de Christ, nous sommes vraiment au service de Christ, oui, mais des fois, on est au service, mais pas dans l'obéissance, forcément. Parce que je me sens vraiment obéissant et prêt à suivre le Seigneur de cette manière-là. En tout cas, Épaphrodite l'était. Et ce qui est plus terrible avec lui, c'est qu'il a risqué, en fait, sa vie. Il a œuvré malgré la maladie, malgré la mort, nous dit Paul. Alors, c'est là où je peux reprendre peut-être certains d'aujourd'hui qui disent qu'il faut guérir, etc. Paul avait ce don de guérir, mais n'a pas guéri Épaphrodite. C'est curieux, hein. Donc le don de guérison et toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui, je t'en perds beaucoup. Paul aurait pu très bien le faire, mais Dieu n'a pas voulu que ça soit fait comme cela. Il guérit, une fois qu'il a été guéri, généralement quand on est malade pendant un moment et qu'on est bien guéri après, qu'est-ce qu'on fait? On y va mollo, non? Tranquillement, je reprends mon travail. Ben non, lui, il va aller apporter l'épître aux Philippiens. Et c'est pas comme aujourd'hui avec la voiture, tranquillement, ou le tram. À l'époque, il fallait marcher. Et longtemps, jusqu'à Philippe, de Rome à Philippe, ça fait une sacrée trotte quand même. Il était malade, il est guéri, et tout de suite, il s'est mis au travail. Quel courage! Et c'est ça que Paul est en train de saluer là. Il était courageux malgré les difficultés qu'il a traversées. Si vous êtes malade, peut-être, si vous êtes des fois découragé, etc., stop. Pensez à Épaphrodite. Hein. Lui, malgré tout cela, il est allé de l'avant. Pas parce qu'il pouvait, et parce que celui qui faisait le vouloir le faire, il le laissait tout simplement agir dans sa vie. Et Paul dit, c'est un homme qu'il faut honorer. Hein. Honorer, c'est le tenir en honneur, le considérer. Ça veut dire aussi quelqu'un de précieux, en fait. Quelqu'un qui était précieux aux yeux de Paul, et qui était aussi estimé pour son travail. Il s'agit de reconnaître le travail des uns et des autres. Hein. C'est bien de travailler des fois, mais ça fait du bien d'être encouragé quand on me dit, t'as bien fait. C'était chouette ce que tu as présenté aujourd'hui. Je ne parle pas pour moi, hein. Je parle pour les uns et les autres. D'accord ? Savoir s'encourager, est-ce qu'on le fait de temps en temps ? Ah, c'est chouette ce que tu as fait la dernière fois avec les enfants, ou c'est chouette le chant que tu as apporté, ou... C'est bien de s'encourager, non ?
Amen.
Amen, oui, mais est-ce qu'on le fait ? Ça, c'est autre chose. Mais pour reconnaître l'autre, il faut le voir. Il faut le connaître. C'est ça, le problème. Est-ce que si je demandais le nom de quelqu'un au hasard ici, vous le connaissez? Ah, peut-être pas les nouveaux. Mais prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous apprécier. Prenez le temps de reconnaître le travail que vous faites pour le Seigneur. C'est ça l'Église aussi, hein. C'est pas je rentre, je sors. Il faut apprendre à se connaître. Comme ça, je vais aussi pouvoir prier pour les uns et les autres. Leurs difficultés, leurs joies. À partir de ces deux modèles, moi je me pose la question pour aujourd'hui. Vous allez me dire, ah, c'est pour le passé. Non, c'est encore valable aujourd'hui. Est-ce que nous, on est des modèles? Ou plutôt, la question, c'est, est-ce qu'on vit avec cet objectif de faire plaisir à Dieu? Parce que des modèles, on l'a dit, c'est difficile de le venir dans la perfection. Mais si je commence à vouloir avoir un objectif de vie chrétienne, de vouloir faire plaisir à Dieu au quotidien, avec mes hauts, avec mes bas, mais c'est ça, devenir tout simplement un modèle. Est-ce que j'ai envie? Répondez dans votre cœur. Est-ce que nous avons de la compassion comme Timothée pour les prisonniers, pour les malades, pour ce monde qui est perdu? Tous les jours, on croise un tas de gens qui vont passer l'éternité en enfer. Est-ce qu'on y réfléchit ou est-ce que je vais juste faire mes courses parce que c'est bientôt Noël, je ne sais pas quoi? Est-ce qu'on prend le temps de temps en temps? Je sais qu'on ne peut pas le faire tout le temps, on est bien d'accord, mais dans mes moments de prière personnelle, si j'en ai, moments de lecture de la parole, si j'en ai, ben je peux aussi penser à mes voisins, penser à mes collègues de travail, à mes avis, à mes amis, à peut-être ceux qui sont malades dans l'Église, ou peut-être je connais d'autres qui sont malades, à ceux qui sont prisonniers pour leur foi. On ne les connaît pas, oui, mais Jésus les connaît, puisqu'on l'a vu dans le psaume 139, qu'il connaît tout le monde. Donc, est-ce que je prends le temps d'avoir de la compassion? Parce que c'est prendre du temps que d'avoir de la compassion. Quel risque est-ce qu'on prend pour Christ? Je pense là un peu à Épaphrodite. Quel risque je prends, moi, pour Christ? Ou alors, est-ce que le bien-être passe avant le service? Et des fois, distribuer les traités, on prend un risque. Bon, pour l'instant, on n'est pas mort. Un jour, il y a un chien qui a failli me mordre. Mais bon, on prend des risques, des fois. Mais dans ma vie chrétienne, le risque, ce serait peut-être un jour d'oser parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Lui donner une Bible à Noël, un calendrier. Vous n'allez pas mourir. C'est un risque pour nous, hein, aujourd'hui. Quel risque je prends vraiment pour Jésus-Christ ? Sommes-nous prêts à devenir des soldats ? Alors, des soldats, oui, on est prêts. Tant qu'il n'y a pas la guerre, tout va bien. Réserviste, comme on dit. Mais est-ce que je suis prêt à partir à la guerre, entre guillemets, à accepter les différentes difficultés que peuvent poser des fois l'Évangile dans l'annonce, dans la manière d'évangéliser, etc. Est-ce que je suis prêt à devenir ce soldat ? C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas devenir un soldat. Hein. Plus de féminisme aujourd'hui, hein. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on honore aussi les personnes qui travaillent pour Christ ? L'honorer, c'est pas forcément d'aller vers la personne, lui dire c'est bien, mais je pense que quand on prie pour cette personne, c'est aussi l'honorer. De prendre du temps dans sa semaine et de dire, Seigneur, tu vois cette personne, j'aimerais te la confier. Merci pour son travail qu'il fait dans l'Église, ou peut-être au travers de l'Église, mais je voudrais te la présenter tout simplement. Et Dieu, je pense que ça, tout simplement, heureux. Le respect qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est s'aimer aussi. Est-ce qu'on honore les personnes pour le travail qu'ils font pour Christ ? Paul nous donne donc deux modèles pour leur ressembler. Derrière, je pense qu'il pensait surtout à ressembler plutôt à Jésus-Christ, évidemment. Mais voilà, il donne quand même des gens là comme modèles, et à nous tout simplement de réfléchir où j'en suis, me comparer peut-être. Après, on n'est pas des Timothées, on n'est pas des Épaphrodites, mais on doit devenir en tout cas des modèles. Pour terminer, Christ nous a sauvés, mais nous a sauvés pour qu'on se mette au travail. Alors travailler, ça veut dire cet après-midi se reposer. Ça aussi, ça fait partie du travail, parce que vous travaillez mieux quand vous dormez, à ce qui paraît. Mais après, voilà, dans ma vie spirituelle, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? J'ai quel âge, on pourrait dire ? Un an spirituel ? Alors que ça fait 20 ans que je connais le Seigneur. 20 ans spirituel, je ne sais pas si on peut le définir par un âge, mais on sait très bien où on en est avec le Seigneur. Est-ce que vous voulez rester à cet état-là, ou on va essayer d'aller un peu plus loin ? Pas parce que moi je le dis, moi je ne suis rien, mais parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et c'est ça qui doit nous aider, nous stimuler à aller de l'avant pour pouvoir le suivre. Le Seigneur veut que les chrétiens deviennent des modèles qui lui ressemblent en tout point. Pas la perfection, mais le maximum, ce qui est possible de faire en tout cas. Et là, il faudra apprendre à arrêter de geindre. Ça, on est des professionnels, hein. On est tous des professionnels. Arrêter de nous plaindre tout le temps parce que notre vie, attendez qu'il y ait une persécution, là vous aurez le droit de vous plaindre. Et souvent, ceux qui sont dans la persécution ne se plaignent pas. C'est ça le plus terrible. On est trop bien des fois. Hein. On doit arrêter de geindre, de plaindre, parce que la croix mérite qu'on combatte pour Christ. On est bien d'accord, non ? Jésus a tout donné pour nous. Non ? Est-ce qu'on ne peut pas lui donner un petit peu ? Qui est déjà beaucoup, je pense, pour chacun d'entre nous. Mais je pense que ce un petit peu, c'est tout simplement de mettre à travailler pour le Seigneur, à combattre pour Christ et annoncer la bonne nouvelle. Prenons le risque de devenir des modèles. Prenons le risque de devenir des modèles pour que la bonne nouvelle avance. Parce que quand cette bonne nouvelle avance, quand on témoigne, quand l'Église rayonne, alors quelqu'un là-haut est heureux. Et moi, j'ai envie de rendre le Seigneur tout simplement heureux. Que Dieu nous aide à devenir des modèles. On prie. Seigneur, merci pour cette épître et merci tout particulièrement pour Paul, ton serviteur, ton apôtre, qui a accepté de souffrir énormément dans sa vie, même la prison, même un tas de choses qu'on ne peut même pas imaginer, seulement parce que son but était d'annoncer l'Évangile, mais aussi parce qu'il voulait voir les chrétiens grandir, parce qu'il voulait qu'ils deviennent des modèles, pour que même ensuite puissent transmettre la parole et l'annoncer à d'autres. Seigneur, tu sais, dans l'état où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas forcément être fier devant toi souvent, mais Seigneur, transforme notre cœur. Là où nous sommes paresseux, rends-nous vigoureux, Seigneur, avec l'envie vraiment d'aller de l'avant. Transforme-nous, Seigneur, et apprends-nous à accepter ces changements dans notre vie. Et je sais que ça passe souvent par l'épreuve, mais fais de nous des chrétiens modèles, des chrétiens qui peuvent te plaire tout simplement. Merci pour cette Église et que nous puissions devenir ces modèles et rayonner tout autour de nous et, comme on l'a dit, que d'autres qui ne te connaissent pas puissent se poser des questions, ne pas peut-être comprendre pourquoi nous on est si heureux alors que des fois nous sommes dans la difficulté. Seigneur, fasse qu'ils s'interrogent et que nous puissions prendre le risque de leur annoncer de la bonne nouvelle. Merci parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire et Seigneur, si toi tu es prêt à nous faire avancer, aide-nous aussi à accepter d'avancer. Et je te prie en Jésus-Christ. Amen.